Et je vais rapidement quand même me tourner du côté du collègue Jonathan Bernard, en fait, qui a couvert une annonce aujourd'hui. En fait, c'est plus ou moins une annonce, c'est un dossier qui est déjà connu, un projet qui est même déjà enclenché. Mais aujourd'hui, c'était chaud de Kodak, c'est journée de pelletée de terre officielle sur Henri IV.
Oui, et on avait choisi ça vraiment, de faire ça dans une ancienne bretelle. Et c'était juste sur le bord de l'autoroute et c'est arrivé à quelques reprises qu'il y a des gens qui passaient, qui ont klaxonné. Bien évidemment, la qualité sonore n'était pas idéale.
T'as les audios, puis t'essaies de...
Peux-vous recommencer, Madame Tremblay?
J'aurais pu vous sortir des extraits, mais c'était un peu cocasse comment ça s'est passé. Mais on voulait vraiment être sur le terrain et avoir des images de tout ça. Et là, bon, on a confirmé ce que tout le monde savait, que les travaux de la deuxième phase d'élargissement commenceraient. Et bon, les travailleurs s'activent déjà dans le secteur depuis le mois de juillet. Donc, c'était vraiment la première pelletée de terre inaugurale, protocolaire, avec les ministres provinciaux et fédéraux. Sachez que les travaux permettront de faire passer le tronçon entre les autoroutes Charest et Capitale de 2 à 3 voies. Et on va reconstruire au total une douzaine de structures. Plus exactement, ce sont 13 structures qui seront reconstruites. Des structures qui datent en moyenne d'une cinquantaine d'années. Donc, c'était nécessaire. Okay. Il s'agissait, là, par exemple, là, de passer... Tout à l'heure, j'ai passé sur Wilfrid Hamel, juste en dessous d'Henri IV, là. Puis quand on regarde la structure, là, il y a du grillage partout.
Ça fait
partout,
peur.
Partout pour éviter qu'il y ait des morceaux de béton qui s'en détachent. Ouais. Fait que, tu sais, c'était nécessaire. Initialement, vous rappelez que le 28 août 2017, quand on a procédé à l'annonce, eh bien, on parlait d'une somme de 450 millions de dollars. Et là, tout le monde avait sursauté. C'est un tronçon qui est tout petit, là.
Oui, il y a combien de kilos là-dedans?
C'est vraiment pas long, là. Je pourrais pas te le dire exactement, là, mais c'est vraiment pas long. Mais c'est à cause de toutes les structures. Le fait aussi qu'on va reconstruire en béton, c'est plus cher, mais c'est plus durable, nous a-t-on fait savoir. Et là, on a réussi à réduire la facture d'un maximum de 450 millions, ce que l'on disait à l'époque, à un peu moins de 300 millions, plus exactement 291 millions de dollars. Là-dessus, je vous invite à écouter la ministre déléguée au transport, Véronique Tremblay.
Quand on fait un projet comme ça, c'est sous la directive des grands projets, donc tout est analysé. Et là, ça arrive occasionnellement que le prix peut être différent après le dossier d'opportunité et le dossier d'affaires. Là, dans le fond, on a déposé le dossier d'affaires, donc le prix est encore plus juste et on arrive un peu en bas de 300 millions de dollars. C'est une excellente nouvelle, je vous dirais. Tant mieux, regarde, c'est au bénéfice des contribuables.
Et là, il y a des mesures d'atténuation qui seront mises en place durant les travaux pour éviter d'importantes congestions. On dit qu'on veut garder là en heure de pointe tout le temps au moins 2 voies. En dehors des heures de pointe, ça risque d'être un peu plus complexe. Il va peut-être y avoir des détours et tout ça. Mais on nous a dit qu'on va essayer d'informer le mieux possible les automobilistes là-dessus. Et il y aura également des mesures d'atténuation du bruit parce que plusieurs de ces travaux qui se feront de nuit.
Okay, donc, il y a des blocs appartements puis des condos à côté, là.
Ben, c'est ça. C'est un secteur quand même qui est relativement industriel, mais il y a quand même des résidences qui sont pas trop loin.
À l'autre du chemin Sainte-Foy, notamment, là.
Ouais, mais on fait pas de travaux à cette hauteur-là. On est entre Charest et Capitale. Ouais. Donc, c'est vraiment des secteurs là, qui sont beaucoup plus industriels, mais on a dit qu'on voulait faire tout de même attention à ça. Les travaux, c'est sur une période de 5 ans, donc ça va être un joyeux bordel pendant 5 ans. En tout cas, je dis ça de même, là, mais s'ils réussissent à faire des mesures d'atténuation, un peu comme qu'est-ce qu'ils ont fait sur leur ancienne, ça devrait relativement bien se passer.
On a parlé dans les dernières heures, en fait, ensemble ici du dossier du troisième lien qui est revenu dans l'actualité parce que, notamment, Philippe Couillard a parlé, en fait, a laissé la porte entrouverte à un possible payage et ça a été question de ça aujourd'hui.
Oui, et à l'instar de leur chef, les ministres Véronique Tremblay et Sébastien Proulx qui étaient présents pour cette annonce de l'autoroute Henri IV n'écartent pas la possibilité d'imposer un péage pour traverser un éventuel troisième lien. Les élus libéraux, donc, de la région de Québec disent qu'il est trop tôt avant de se prononcer définitivement et n'ont pas manqué l'occasion d'écorcher le chef de la CAQ, bien évidemment, à l'aube du déclenchement de la campagne électorale. Donc, je vous invite à écouter en rafale Véronique Tremblay, suivie de Sébastien Proulx.
On peut pas dire non en ce moment à tout. Là, on n'est pas encore assez avancé dans le projet. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'est pas rendu au coût du projet. Alors, on est responsable. Alors, si on estime qu'il y a un besoin, qu'il y a un payage, ben il y en aura un. On peut pas dire pour l'instant, il n'y aura pas de payage du tout. Ce serait être irresponsable de dire ça comme le fait François Legault en ce moment.
Si on discute de ça aujourd'hui, ben c'est parce que tout le monde ici à Québec est convaincu que même au gouvernement libéral, on veut réaliser le troisième lien. Ça doit être dit, là. Dans les faits, ce troisième lien-là, il va exister. Comment il sera construit, où il sera construit et à quel coût, ça, on ne le sait pas. Pour François Legault et son équipe, ça, ce sont de mini-détails. Quand on gère les impôts et les avoirs des gens, ce ne sont pas des détails anodins. C'est la première chose. Deuxièmement, je suis d'accord avec Véronique, on ne doit rien exclure. Est-ce que c'est la solution qu'on préconise aujourd'hui? La réponse est non, mais est-ce qu'on peut exclure des choses? Non.
Et là, la ministre Tremblay a fait valoir que si un péage est imposé sur un éventuel troisième lien, que la traversée des deux autres liens, soit le pont La Porte et le pont de Québec, eux resteront gratuites.
Ouais. Et du troisième lien, on passe au premier lien, le lien original à Québec, parce qu'il était question du pont de Québec aussi. Okay.
Et oui, puis là, on passe de la politique provinciale à la politique fédérale, parce que là, on avait un nouveau ministre des Infrastructures qui était pour une première fois en ville.
C'est vrai, il parle français, lui, c'est un Québécois?
Oui, on est loin d'Amarjit Sohi, qui était l'ancien ministre.
Pardon qui?
Amarjit Sohi.
C'est bien. Okay.
C'est bon? Oh oui. Je pense
même avoir prononciation des deux fois, fait que c'est correct.
Là, c'est le ministre François-Philippe Champagne, qui est un élu de la Mauricie, qui était de passage à Québec pour cette annonce concernant Henri IV. Et là, on lui a posé différentes questions, notamment sur le péage pour un troisième lien. Il dit, regardez, nous, on est en accompagnement, si c'est privilégié par le gouvernement. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous répète habituellement?
C'est bienvenu à Québec, là. Il fallait quand même poser une couple de questions.
Mais là, la question qu'on peut se poser, c'est un nouveau ministre fédéral des Infrastructures provenant du Québec permettra-t-il de dénouer l'impasse et de repeinturer le pont de Québec?
Pour la pression.
Et il nous a dit...
Il n'en a pas donné une facile.
M. Champagne, que ça faisait partie de ses trois priorités.
Oh.
Que dès qu'il a été nommé, le maire de Québec, semblerait-il, l'a texté pour le féliciter, mais pour lui dire en même temps, tu vas me régler ça, cette histoire-là du pont de Québec.
Bravo, j'ai un pont.
Et là...
Bravo, tu achètes la peinture?
Le ministre Champagne semble vouloir éviter que l'engagement électoral de ses collègues Duclos et Lightbound s'avère une promesse brisée, parce que je tiens à vous rappeler que à la dernière campagne électorale fédérale, ça avait été une promesse qui avait été lancée par les libéraux et c'est pas réglé. L'échéance électorale s'en vient, c'est l'an prochain.
Oui.
Donc, il va falloir qu'il fasse vite pour régler ce dossier-là. Alors, nommé ministre des Infrastructures il y a à peine deux semaines, M. Champagne doit avoir déjà commencé à travailler sur le dossier.
Il est temps pour les gens de Québec qu'on arrive à trouver une solution. C'est l'esprit dans lequel je m'engage avec le CN, un esprit ouvert, un esprit en mode solution. Pour moi, c'est sûr que ce pont-là, pour avoir été à Québec, pour avoir passé ma jeunesse à Québec, vous comprendrez que je comprends l'enjeu, je comprends pourquoi les gens sont attachés à ça. C'est pourquoi que je vais y mettre toute l'énergie, la passion. Et je peux vous dire, je l'ai mis dans mes trois priorités. Les gens du CN le savent. On s'y parle cet après-midi, on s'est déjà parlé.
Ah, ils sont déjà parlé, OK. C'est ce que je me demandais. Est-ce qu'il nous dit ça parce qu'il n'a pas encore appelé au CN et il ne s'est pas fait encore dire un beau gros « non ». Ça ne nous intéresse pas.
Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, je pense que les ponts sont établis avec le CN. Et le ministre Champagne indique par ailleurs que l'implication du fédéral dans une solution pour le pont de Québec n'aurait pas nécessairement un impact sur le financement d'un troisième lien. Peut-être vous vous souvenez, ça avait déjà été avancé, Joël Lightbound qui avait dit « Ouais, ben là, l'argent, si on met de l'argent pour le pont de Québec, on n'en aura peut-être plus pour un troisième lien. » Lui, il dit « Regardez, ces deux dossiers qui sont complètement distincts selon lui. »
Et d'un dossier de transport, on ne pouvait pas aller à une annonce avec Sébastien Proulx sans le questionner à nouveau sur le pavé qu'il a lancé dans la mare au début de la semaine, c'est-à-dire... La succursale de la SQDC, de la Société québécoise du cannabis, installée près des cégeps et de l'Université Laval.
Oui, voilà. Et il persiste et signe, M. Proulx. Il ne veut rien savoir de la succursale en plein cœur de sa circonscription, je vous le rappelle, mais aussi, surtout, près d'institutions post-secondaires. Il s'est défendu tout à l'heure en point de presse d'être du même avis que la Coalition Avenir Québec dans ce dossier, parce que c'est le cas. Éric Kerr a été le premier, crois, à dénoncer.
Simon-Jolin Barrette en a rajouté par après.
C'est ça. Et là, ce qu'il nous a expliqué, Sébastien Proulx, c'est que sa discussion avec sa collègue Lucie Charlebois ne l'a pas fait changer d'idée.
Moi, je continue de faire les représentations qui sont les miennes auprès de la Société du cannabis. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ce dossier-là. Ça ne va pas se régler du jour au lendemain. Là. Il faut que les gens réfléchissent à tout ça. Mais je sais, pour avoir parlé à bien du monde à Québec, il y a des gens qui pensent comme moi. Ce que je dis, c'est que le secteur qui a été identifié, à mon avis, n'est pas le bon. Une fois que j'ai dit ça, je répondrai à tous les jours si vous voulez, mais je vais dire la même chose. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est pas le bon. Et si la Société du cannabis veut aller là à tout prix, bien, elle devra faire tout ce qui est nécessaire pour s'assurer de protéger les jeunes. Parce que c'est ça ma préoccupation. Oui, faire confiance aux adultes, mais protéger les jeunes.
C'est ça qu'il a dit, Lucie, là, c'est pas contre toi, là. J'ai des élections à gagner, moi, avec.
Mais, ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais puis malgré le fait qu'il soit pas d'accord avec... en fait, que je sois pas d'accord avec lui, parce que moi, je pense que la localisation géographique n'est pas si pire que ça, finalement. Je trouve ça intéressant, moi, qu'il y ait une petite chicane. On dirait que ça arrive pas souvent que deux collègues comme ça soient en désaccord.
Entre M. Proulx et Mme Charlebois.
Puis qu'ils acceptent de le dire, finalement, de vive voix. Là, tu sais.
Mais est-ce qu'on a utilisé ici la stratégie du bon cop, bad cop?
Ah ouais.
Parce qu'il y a un électorat à séduire. On est tout près de la campagne électorale. Il y a des gens qui trouvent que ça n'a pas d'allure d'installer une succursale à cet endroit-là, alors que de l'autre côté, il y en a qui disent « Ben oui, il n'y a pas de problème, c'est normal d'en installer là. »
Ceux qui trouvent que ça n'a pas de bon sens vont voter pour Sébastien Proulx. Ceux qui trouvent que c'est correct, ben ils vont voter PLQ.
Pour les politiques libérales.
Oui, c'est ça, s'ils ont des affinités là-dessus.
Ouais, je comprends. Mais moi, de toute façon, dans le grand dossier du cannabis, je peux pas m'enlever la fois que Mme Charlebois, tout le monde en parle, parlait d'enfants qui courent dans un champ de potes puis qui s'enfage, qui tombe, qui se relève debout gelé. Depuis cette fois-là, on dirait qu'à toutes les fois que Mme Charlebois parle du dossier du cannabis, je ne suis pas capable de la trouver crédible.
C'est un peu discrédité.
Ça a lancé des images fortes.
Hey, ça, là, tu te dis, c'est elle qui est responsable. C'est elle qui décide, en tout cas.
Puis, tant qu'à avoir, en fait, Jonathan en studio, ben, on va parler de ce dossier, en fait, dont on parle depuis plusieurs mois maintenant, celui du séminaire des Pères Maristes.
Ouais, et là, parce que ce matin, dans les pages du Soleil, on apprenait que le jeune qui a été traduit en chambre de la jeunesse pour avoir violenté un autre élève du séminaire des Pères Maristes, eh bien, a été reconnu coupable de voies de fait et de lésions corporelles. Et là, ce que l'on en comprend à la lecture de cet article, c'est que ce jeune-là pourrait être admis en septembre. Et là, j'ai posé la question à Sébastien Proulx, le ministre de l'Éducation. Vous ne trouvez pas, monsieur le ministre, que ça lance un mauvais message? Voici la réponse qu'il m'a donnée.
T'sais, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce dossier-là. Il y avait un dossier qu'il fallait traiter. Je devais faire part de notre implication là où on pouvait agir, c'est-à-dire dans la relation avec la direction. Et dans ce dossier-là, je veux dire, il y a déjà des liens très serrés. Vous avez vu, là? On a des demandes très fermes, de fait, à la direction du séminaire. Alors, ils ont un travail à faire, donc on va voir ce qu'il y en est dans les prochains jours et la prochaine semaine.
Beaucoup de mots pour pas dire grand-chose. Ouais. Hein?
Puis on vous rappelle qu'il y a eu entrevue, en fait, exclusive entre Myriam Segal et une des jeunes filles dont les photos ont circulé dans un autre dossier, en fait, au séminaire des Pères Maristes, mais quand même, qui implique la même institution. Cette entrevue exclusive-là sera rediffusée en intégralité un peu plus tard dans l'émission d'aujourd'hui.